Si vous êtes fatigué de crier sur vos enfants, si vous avez l'impression de ne pas être la mère ou le père que vous avez toujours rêvé d'être, si vous rêvez de relations familiales plus apaisées, plus sereines, si vous cherchez l'équilibre entre fermeté et bienveillance, sans basculer ni dans l'autoritarisme ni dans le laxisme, alors j'ai quelque chose à vous proposer. Les jeudis soirs, du 16 mai au 27 juin, j'organise un atelier de parents en ligne, en tout petit groupe. Durant 7 semaines consécutives, je partagerai avec vous tous les outils de la discipline positive qui m'ont moi-même aidé à la fois à dépasser mon tempérament colérique et aussi à établir des relations plus saines et apaisées avec mes enfants. Nous ferons des jeux de rôle pour tester ces outils et voir ce qui vous convient. Nous réfléchirons ensemble pour trouver des solutions à vos problèmes parentaux et nous nous encouragerons mutuellement tout au long de ce parcours. Tout se passe sur Zoom. Vous pouvez donc participer à l'atelier tranquillement depuis chez vous sans payer une babysitter. C'est parfait pour les parents solos qui n'ont pas forcément un relais facile à la maison. Et pour encourager les couples à participer à deux, eh bien j'offre l'inscription à l'atelier aux deuxièmes parents. Alors rejoignez-nous vite, les places sont limitées et les inscriptions ne seront possibles que jusqu'au dimanche 5 mai pour nous laisser le temps de vous envoyer votre colis de bienvenue avec tout ce dont vous aurez besoin pour l'atelier. Moi j'espère vous retrouver très vite dans un groupe aussi extraordinaire que ceux des dizaines et des dizaines de parents qui ont déjà participé à des ateliers comme celui-ci et qui en sont tous sortis tellement plus sereins. C'est simple, on a un taux de satisfaction de 100%. Toutes les infos sont sur la page d'inscription de l'atelier que vous retrouverez dans les notes de votre épisode. Alors bonne écoute et à très bientôt. Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souris 7, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Il faut que je vous dise comment je suis en train d'enregistrer cet épisode. Il se trouve que je suis dans ce que j'appelle mon studio, qui est en fait un ancien dressing, qui n'est pas chauffé. Parce que si vous ne le saviez pas, en fait la plupart des podcasteurs enregistrent leurs podcasts dans des endroits de petite taille pour éviter le phénomène d'écho. En fait, dans n'importe quelle grande pièce, le son va davantage créer d'écho. Et ça va faire un son qui se réverbère un peu plus dans le micro, ce qui crée un son un peu désagréable pour vous. Donc, certains podcasteurs enregistrent même dans un placard à vêtements ou dans une armoire en fait ouverte. Moi, j'ai choisi de convertir ce dressing en petit bureau, avec la particularité que ce dressing n'est pas chauffé et que je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais chez nous, il commence à faire assez froid. Donc voilà, je suis là avec ma petite couverture pour vous parler pendant quelques minutes, peut-être quelques dizaines de minutes. Et je trouve que ça introduit parfaitement le sujet d'aujourd'hui, puisque je vais vous parler des enfants hyper sensibles et de ce que la pédagogie Montessori peut faire, dans quoi elle peut aider ces enfants hyper sensibles. Mais pour commencer, il faudrait que je vous définisse l'hypersensibilité. Et là, c'est très compliqué. L'hypersensibilité, ça n'est pas proprement parlé un concept médical, un diagnostic. C'est une notion, un concept psychologique qui est plus ou moins bien défini. En gros, la définition de base, ce serait que l'hypersensibilité, c'est un trait de caractère qui fait qu'on a une sensibilité supérieure à la moyenne. Vous allez me dire qu'avec ça, vous êtes bien avancé, vous avez raison. Parce qu'en fait, on a tendance à assimiler deux choses qui ne sont pas totalement les mêmes. L'hypersensibilité d'un côté et l'hyperesthésie de l'autre. Alors l'hyperesthésie, c'est une hypersensibilité sensorielle. C'est qu'on a une sensibilité tactile ou auditive ou visuelle ou olfactive ou gustative, etc. supérieure à la moyenne. Et l'hypersensibilité serait davantage, je dis serait parce qu'en général on parle d'hypersensibilité pour les deux, mais si on veut être plus précis, on devrait plutôt réserver le terme d'hypersensibilité à l'hypersensibilité émotionnelle. D'être davantage sensible aux émotions des autres, peut-être plus dans l'empathie, peut-être aussi plus dans la perception fine des émotions des autres. On peut parler d'intelligence émotionnelle, on peut parler de tout un tas de choses comme ça. Donc cette hypersensibilité, on peut la raccrocher à des choses comme les babies, les bébés à besoins intenses, qui est un terme qu'on a commencé à utiliser dans les années 80, des bébés qui pleurent beaucoup, qui sont très sensibles à beaucoup de choses, qui sursautent au moindre bruit, etc. Et on ne sait pas très bien, comme on n'a vraiment pas bien défini cette hypersensibilité, on ne sait pas vraiment si c'est quelque chose d'héréditaire, peut-être d'environnemental, peut-être lié à des excès de sucre, à des excès d'écran. Il y a beaucoup de choses qui restent encore très floues. Parce que bon, si on prend l'idée qu'il y a une moyenne de sensibilité, ben, il y a forcément des gens qui auront une sensibilité inférieure à cette moyenne et des gens qui auront une sensibilité supérieure à cette moyenne. C'est comme ça que ça fonctionne, une moyenne. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des choses à dire de cette population de personnes hypersensibles. Bon, en l'occurrence, il semblerait qu'il y ait des choses à dire de cette population hypersensible. Beaucoup de gens s'y retrouvent. Donc, je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir si l'hypersensibilité existe ou pas. Techniquement, elle existe. Des personnes qui ont une sensibilité, alors pas forcément juste supérieure à la moyenne, mais un bon cran supérieur à la moyenne, ça, il y en a forcément, puisque c'est encore une fois le principe d'une moyenne. Donc, la définition technique de l'hypersensibilité a du sens. Maintenant, savoir si il y a tant que ça de particularités ou pas. Est-ce que ça vaut le coup de créer un diagnostic, en quelque sorte, d'enfant hypersensible? Je ne suis pas sûre que ce soit indispensable. Mais on va voir là quelques exemples de la façon dont l'hypersensibilité peut s'incarner dans la vie quotidienne, et puis voir en quoi la pédagogie Montessori répond parfaitement, en fait, aux besoins de ces enfants hypersensibles, et comme elle répond parfaitement aux besoins d'autres enfants. Donc, quelques exemples de comportements liés à une forme d'hypersensibilité. Ça peut être des enfants ou des adultes qui ne supportent pas d'aller au supermarché parce qu'il y a beaucoup trop de bruit, de lumière, de stimulation autour d'eux. Ça peut être des enfants, encore une fois, ou des adultes, hein, qui ne supportent pas la moindre étiquette dans leurs vêtements. Bon, je pense qu'on a tous déjà eu une étiquette qui gratte, ou un vêtement qui gratte. Mais chez des personnes hypersensibles, ça va être quelque chose de beaucoup plus généralisé. Ça va être la plupart des étiquettes qui vont déranger, ou beaucoup de tissus différents qui vont déranger, et seulement quelques tissus qui sont agréables et que la personne peut porter sans être dérangée. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a une hypersensibilité de ce type, eh bien, on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite, surtout pendant l'enfance, mais on peut s'apercevoir que l'enfant a des tics, par exemple bouge ses épaules ou se gratte derrière la tête, derrière la, au milieu des omoplates, parce que en fait il a cette étiquette qui le dérange, mais il ne prendra peut-être même pas forcément conscience qu'il y a une étiquette qui le dérange. Il sent juste qu'il n'est pas bien, mais il n'a pas forcément identifié la cause de ce mal-être. Et donc nous, en observant, on peut tâcher de la deviner. Donc il y a des signes comme ça qui peuvent quand même nous aider à reconnaître une forme d'hypersensibilité. Là, c'est plutôt une hypersensibilité tactile. Mais il peut aussi y avoir, par exemple, des dégoûts alimentaires. Un enfant, alors non pas un enfant qui n'aime pas les brocolis, hein, ça c'est une chose, mais par exemple un enfant qui ne supporte pas certaines textures, qui ne supporte pas certaines saveurs qui pourtant ne sont pas très prononcées ou ne sont en général pas détestées par les enfants. Et puis au niveau plus émotionnel, vous avez peut-être déjà observé que quand dans un groupe d'enfants, par exemple à la crèche, il y a un ou deux enfants qui se mettent à pleurer, il y en a qui se mettent à pleurer aussi. Non pas parce qu'ils ressentent la moindre tristesse par elles-mêmes, enfin, en eux-mêmes, non pas parce qu'ils sont frustrés ou quoi que ce soit, mais simplement parce qu'un autre enfant pleure. Et c'est comme si en quelque sorte ils étaient contaminés, qu'il y avait une contagion des pleurs et de la tristesse. Et ces enfants, en fait, ils ressentent la tristesse des autres et ils sont submergés par cette tristesse et ils se mettent à pleurer à leur tour. Ça peut aussi être des enfants qui sentent qu'un autre enfant ne les aime pas, mais sans trop savoir dire pourquoi. L'autre enfant n'a rien dit, n'a pas eu de geste évident qui montre qu'il n'aime pas le premier enfant, mais ça, le premier enfant, lui, se dit il ou elle ne m'aime pas. En fait, c'est simplement que l'enfant a perçu des signaux qui sont très subtils, mais de par cette hypersensibilité, l'enfant les a perçus, et donc, inconsciemment, il en tire des conclusions. Parce que, au fond, on peut percevoir le lien entre l'hyperesthésie, donc une hypersensibilité sensorielle, et l'hypersensibilité émotionnelle. C'est que les émotions, on les perçoit à travers nos sens, en fait. Comment est-ce que je reconnais que la personne en face de moi est heureuse ou triste? Eh bien, je regarde l'expression de son visage et je la regarde dans le détail. Vous savez que parfois, il y a des gens, on dit qu'ils rient ou qu'ils sourient, mais que leurs yeux ne sourient pas. Hein, ça s'appelle ces micro-expressions qu'on peut voir aussi chez les gens, où on peut voir passer une expression de dégoût très rapidement, qui a disparu presque aussi vite qu'elle est apparue, mais elle était là. Et donc, c'est par notre vue, en général, également par notre oui, parce que c'est souvent en écoutant aussi les intonations, les petites respirations subtiles, les choses comme ça, qu'on va, percevoir une émotion chez la personne en face de soi. Donc, c'est au fond assez naturel que le fait d'avoir une hypersensibilité sensorielle rejaillisse sur une hypersensibilité émotionnelle. Bon, alors maintenant qu'on a un petit peu évoqué ce qu'était l'hypersensibilité, vous voyez bien que c'est quelque chose d'un peu flou quand même, et que beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans cette étiquette. On parle parfois de 10% de la population, parfois de 30% de la population, de 20% de la population, on a l'impression qu'on a coupé la poire en deux, qui seraient concernés. En fait, moi je pense que c'est surtout une question de curseur. Encore une fois, si vous partez de la moyenne de la sensibilité chez les gens, vous avez la moitié des gens qui sont au-dessus de la moyenne, la moitié qui sont en dessous. Enfin, c'est pas tout à fait exact, mais ça, c'est la médiane. Mais voilà, vous avez quand même des gens qui sont au-dessus, des gens qui sont en dessous. Et puis, vous avez des gens qui sont un peu au-dessus, des gens qui sont très au-dessus. Vous avez tout un continuum, comme ça, de sensibilité. Donc, peu importe où on met la barre, à un moment donné, il y a des gens qui sont vraiment très hypersensibles, d'autres qui le sont un petit peu. Dans tous les cas, c'est un continuum. Il y a des caractéristiques qui vont être un peu proportionnelles à l'hypersensibilité, des inconvénients et des avantages qui vont être proportionnels à l'hypersensibilité. Alors, en quoi la pédagogie Montessori peut-elle aider, en particulier, ces enfants hypersensibles? Eh bien, je vois un certain nombre de caractéristiques de la pédagogie Montessori qui font qu'effectivement, ça va être beaucoup, beaucoup plus utile. Enfin, beaucoup. L'hypersensibilité va être beaucoup mieux prise en compte et ça va considérablement aider ces enfants hypersensibles. Personne n'a envie d'avoir un enfant roi. Et personne n'a envie non plus d'avoir un enfant complètement éteint et soumis parce qu'on l'aurait dressé à coups de claques ou de fessées. La grande difficulté de notre tâche de parent, c'est d'équilibrer la fermeté et la bienveillance sans jamais basculer ni dans l'autoritarisme ni dans le laxisme. Eh bien, c'est justement pour vous aider à retrouver cet équilibre entre fermeté et bienveillance que je vous invite aujourd'hui à participer à notre atelier de parents en ligne qui se déroulera sur Zoom du 16 mai au 27 juin prochain. Durant ces 7 séances, nous allons apprendre à poser un cadre dans toute la famille. Nous allons travailler sur ces notions de fermeté et de bienveillance, sur ce qui nous amène à plus de fermeté, ce qui nous amène à plus de bienveillance, pour essayer d'être les deux à la fois, et non pas de basculer entre le matin et l'après-midi, où on va être ferme le matin et beaucoup trop bienveillant l'après-midi. Et on va aussi apprendre à nous ressourcer. Dans la troisième séance, on va travailler sur l'ordre de naissance et son impact sur les enfants. Nous allons aussi étudier ce que sont les comportements inappropriés chez les enfants et comment on peut y répondre. Dans la quatrième session, nous allons faire tout un bloc pour passer de la punition à la recherche de solutions. C'est le bloc central de tout cet atelier et croyez-moi, c'est là qu'il y a les prises de conscience les plus phénoménales. Ensuite, on abordera la gestion des conflits, en particulier dans la fratrie, mais aussi évidemment entre enfants et adultes. Ensuite, on apprendra à mieux nous connaître grâce à un travail qu'on appelle les cartes dominantes. Et puis, on apprendra à trouver des solutions tous ensemble en famille. Et enfin, durant la dernière séance, nous verrons comment passer un accord et nous y tenir et faire en sorte que tout le monde dans la famille s'y tienne. Voilà, si ce programme vous tente, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'atelier de parents. Pour cela, c'est très simple. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode et vous avez tout simplement jusqu'au dimanche 5 mai pour vous inscrire. Il nous faut un petit peu de temps pour préparer l'atelier, vous envoyer votre colis de bienvenue dans lequel vous retrouverez le livre La discipline positive et un porte-vue avec tous les documents qui pourront vous être utiles, toutes les ressources dont nous aurons besoin pendant l'atelier. Je vous laisse écouter la fin de votre épisode et n'hésitez pas donc à consulter le lien d'inscription qui se trouve dans les notes de votre podcast. J'en ai noté 9, c'est vous dire. Et je suis sûre que j'aurais pu encore en trouver 5 ou 6 autres. La première chose, c'est que les présentations dans la pédagogie Montessori sont faites de façon à ce que chaque étape est présentée l'une après l'autre. Et on ne parle pas pendant qu'on agit. Donc un enfant qui est très sensible, qui peut facilement être surstimulé, là, il va avoir uniquement des gestes à observer, puis uniquement une parole à écouter, puis à nouveau des gestes, puis une parole. Les gestes sont ralentis, ils sont décomposés. Donc tout ça, ça offre vraiment un niveau de stimulation minimal au niveau sensoriel pour l'enfant. Évidemment, du coup, ça facilite le calme, l'attention et la concentration pour ces enfants qui sont hypersensibles et que parfois on peut trouver très agités. Par ailleurs, l'environnement est généralement plus calme. C'est-à-dire que les enfants qui travaillent dans une ambiance Montessori sont généralement plus calmes. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est un point sur lequel on insiste dans une ambiance Montessori et on apprend aux enfants à respecter le travail de l'autre, donc à ne pas marcher sur le tapis du camarade qui est en train de travailler, à ne pas venir bousculer la table de celui qui fait un encastrement compliqué, qui par exemple qui travaille sur la boîte du binôme ou du trinôme, le cube du binôme ou du trinôme. Et puis, on apprend aux enfants à marcher lentement, à faire des gestes posés. Bref, l'ambiance est beaucoup plus calme. Donc ça, évidemment aussi, c'est un niveau de stimulation plus faible pour ces enfants hypersensibles qui sont en général surstimulés à l'école. Une autre cause d'hyperstimulation ou de surstimulation, c'est l'environnement de travail. Quand vous allez dans une classe classique, les murs sont en général couverts de choses. Des affiches, des dessins, des choses colorées dans tous les sens, des frises numériques, des lettres, des affiches, tout un tas de choses. Dans une ambiance Montessori, ça fait partie de l'ambiance Montessori que de garder un environnement aussi épuré que possible, aussi sobre et épuré que possible, justement pour que l'enfant puisse développer son attention et sa concentration sans se laisser distraire par tout ce qu'il y a au mur. Alors bien sûr, il y a aussi des affichages dans une ambiance Montessori. Il y en a, mais peu, moins. Et on essaie de faire évoluer l'affichage, de ne pas sans arrêt en rajouter au fur et à mesure, mais peut-être d'en retirer et d'en échanger au fur et à mesure de l'année. Et puis, il y a des plantes, une organisation globale de l'espace de travail qui est beaucoup plus épurée, et c'est très apaisant pour ces enfants hypersensibles. Le quatrième point, c'est que jusqu'à l'âge de 6 ans à peu près, on insiste sur le travail individuel avec les enfants. Et ça, c'est parfait pour ces enfants hypersensibles qui peuvent apprendre à mieux se réguler avant de passer à une ambiance 6-12 ans où là, il y aura énormément de travail collectif. Donc d'abord, l'enfant apprend à se réguler au niveau sensoriel, au niveau de sa concentration, et ensuite, il pourra développer le travail en groupe, qui est évidemment beaucoup plus stimulant. Vous imaginez bien que quand vous travaillez avec 2, 3, 4 personnes, eh bien, il y a des interactions, vous avez les émotions de ces personnes qui influent sur vous, vous avez des gens qui se coupent, qui s'interrompent, ça peut être une source de surstimulation. Oh, vous admirez de l'allitération, une source de surstimulation. J'ai l'impression d'être un serpent. En plus, avec le mot hypersensibilité, c'est pareil, qui a beaucoup de ce. Donc, ce travail collectif, évidemment, ça doit venir plus tard pour ces enfants hypersensibles. C'est important de se concentrer sur le travail individuel au démarrage, ce que fait la pédagogie Montessori. Là où dans un environnement classique, au contraire, souvent on fait du travail de groupe jusqu'à 6 ans, et à partir de 6 ans, c'est travail individuel, derrière son bureau dans une salle de classe. Donc là, on fait un petit peu les choses à l'envers hein, pour ces enfants hypersensibles. La pédagogie Montessori, elle, remet un petit peu les choses à leur place. Un autre élément, c'est que souvent, je veux dire souvent parce que parfois c'est plus compliqué, mais en tout cas ça fait partie du projet pédagogique Montessori que de passer beaucoup de temps dans la nature. C'est évidemment plus difficile pour des écoles qui se situent en ville, mais en général il y a quand même un accent qui est mis plus que dans des écoles classiques sur le fait d'aller dehors, de se confronter à la nature, de passer du temps dans la nature. Et ça, ça fait aussi partie des outils qui sont très utiles pour se réguler. Ça fait qu'au Japon, les médecins prescrivent parfois des bains de forêt. C'est une prescription médicale. On conseille aux gens qui sont surmenés, stressés par leur travail. Vous savez qu'au Japon, il y a quand même un stress au travail qui est assez phénoménal. Eh bien, on leur prescrit des bains de forêt. Et je trouve ça merveilleux. J'adorerais que nos médecins nous prescrivent des choses similaires. Et donc, ce temps passé dans la nature, ça va aider ces enfants hypersensibles, là encore, à s'auto-réguler. Je crois que c'est le sixième élément, c'est que dans la pédagogie Montessori, l'enfant possède une liberté de choix d'activité. Ça veut dire qu'il peut suivre son rythme et donc prendre son temps sur une activité sans se sentir pressé de la faire parce que tout le monde travaillerait dessus en même temps et qu'il faudrait finir dans un quart d'heure parce que dans un quart d'heure, on passe au français. Non, là, l'enfant peut respirer, il prend son activité, il la fait à son rythme, en fonction de ce dont il a besoin, avec sa stimulation, son niveau de stimulation sensorielle et émotionnelle. Et donc, c'est évidemment beaucoup plus apaisant. Voilà. Le septième avantage de la pédagogie Montessori, il est davantage du côté émotionnel. C'est que ces enfants qui sont hypersensibles sont assez souvent soumis à plus souvent soumis à un harcèlement scolaire. Est-ce que c'est parce que ces enfants présentent des particularités? Par exemple, une intolérance à la frustration, à certains bruits, à certaines sensations tactiles, etc. Que c'est une source de moquerie pour les autres? Est-ce que, tout simplement, comme ils sont plus sensibles aux émotions des autres, ils en souffrent davantage? Et dans les dynamiques de harcèlement, il y a toujours un harceleur et un harcelé. Et les harceleurs ont tendance à repérer des victimes. Donc plus ils peuvent susciter de réactions ou de souffrances, plus le harcèlement a de la valeur pour eux. Donc ils vont s'orienter vers des gens qui peuvent davantage faire souffrir. Donc les enfants hypersensibles sont évidemment des victimes toutes désignées. Eh bien, dans les écoles Montessori, les classes Montessori, on fait un travail, déjà de grâce et de courtoisie, et un énorme travail sur les relations sociales et l'acceptation de l'autre. L'un des points majeurs pour Maria Montessori dans sa pédagogie, c'est ce qu'on appelle l'éducation à la paix. Elle était convaincue que l'avenir des nations, l'avenir de la paix internationale, était lié à l'éducation qu'on allait donner à nos enfants. Et donc, cette éducation à la paix, elle fait partie du cursus Montessori, de la progression Montessori, au même titre que le français, les maths ou les sciences naturelles. Donc, à partir du moment où on insiste sur cette éducation à la paix, où on fait tout ce travail sur les relations sociales, il y a moins de cas de harcèlement scolaire. Alors, bien sûr, il y en a malgré tout, il y en aura sans doute toujours. C'est malheureux, mais c'est comme ça, je pense que c'est comme les accidents de la route, on peut les réduire. Malheureusement, il est probable qu'il y en ait toujours. Mais ça reste quand même un environnement davantage protégé pour ces enfants hypersensibles. L'avant-dernier avantage dont je voulais vous parler, c'est tout le travail de vie sensorielle Montessori, puisque c'est un domaine à part entière dans la pédagogie Montessori. Alors c'est vrai qu'en école maternelle, on travaille sur les formes et les couleurs, ça c'est une chose, c'est un aspect du développement sensoriel, mais c'est un tout petit aspect. Vous voyez bien qu'avec vos sens, vous pouvez percevoir bien plus de choses que les formes et les couleurs. Il y a les saveurs, il y a les odeurs, il y a les poids, il y a savoir si quelque chose est lisse ou rugueux. Le fait de savoir reconnaître un objet sans le voir, simplement en le touchant, c'est ce qu'on appelle le sens stéréognostique. Le poids, c'est ce qu'on appelle le sens barique. On sent une certaine pression sur nos mains. Il y a le sens thermique, est-ce que quelque chose est chaud ou froid? En fait, on a bien plus que 5 sens. Et l'intérêt de ce travail avec les enfants hypersensibles, c'est qu'ils ont des perceptions très intenses pour tout. Eh bien, ça va leur permettre de travailler sur la gradation dans ces perceptions-là. Par exemple, au niveau des sons, un son très fort et un son très doux. Et toute une gradation entre les deux. Un son aigu et un son grave. Là encore, toute une gradation entre les deux. Et ça va les aider déjà à prendre conscience du moment où l'environnement devient trop stimulant pour eux, où ils ont besoin de se retirer de l'environnement, de se mettre au calme. Et puis, encore une fois, ça va les aider à affiner leurs perceptions sensorielles, qui sont déjà assez développé, c'est le principe même de l'hypersensibilité, mais le problème, c'est que comme tout est accentué, ils peuvent avoir du mal à distinguer les nuances entre des perceptions qui pour eux sont très fortes. Et donc ce travail sensoriel va les aider à raffiner leur sens, à travailler sur les gradations, sur les nuances. Ça va être un outil extrêmement précieux pour les aider à se réguler. Du coup, face à toutes ces stimulations sensorielles, ils pourront poser des mots dessus, avoir conscience de ce qu'ils perçoivent et avoir conscience du niveau dans la gradation où se situe cette perception sensorielle et savoir si leur réaction est appropriée ou pas. S'il faudrait qu'ils s'éloignent de ce qui va les gêner, par exemple d'un son qui serait un peu désagréable, et de se dire, là, ce son commence à être désagréable, je vais me retirer maintenant. Peut-être qu'il est un peu trop aigu pour moi. S'il va devenir encore plus aigu, s'il devient plus aigu, je vais avoir du mal à le supporter. Vous voyez? Donc tout ce raffinement sensoriel, ça va être un outil d'autorégulation pour eux. C'est une façon aussi de se confronter à leur perception sensorielle. Et c'est un petit peu comme les thérapies pour se confronter aux peurs et aux angoisses. Il faut... le nom m'échappe là tout de suite, ce sont des thérapies de... bref, où on confronte la personne à ses peurs, à ses angoisses. Là, de la même façon, ils vont se confronter à leur perception sensorielle, mais dans un environnement contrôlé, et ils vont petit à petit pouvoir mieux se réguler. Et puis un dernier aspect, qui je pense est important aussi, qui est une conséquence, je dirais, de la philosophie Montessori, pour moi ça fait partie des principes montessoriens, c'est qu'on ne touche pas un enfant s'il ne le souhaite pas. Le respect du consentement est fondamental, et donc on ne touche pas un enfant s'il n'est pas d'accord pour le faire. Et ça, mine de rien, un enfant hypersensible, il peut être confronté à beaucoup de toucher dans la journée, un enseignant, des élèves, etc. Et bien là, développer cette idée qu'on ne touche l'autre que s'il est d'accord pour qu'on le fasse, eh bien, ça leur évite un certain nombre de stimulations qui ne sont pas désirées. Donc voilà un petit peu tous ces avantages de la pédagogie Montessori. Comme je vous le disais, je pense qu'on pourrait en trouver encore plein d'autres. Mais donc le fait que dans une présentation... Je voulais récapituler rapidement. Le fait que dans une présentation, chaque étape soit présentée l'une après l'autre et qu'on ne parle pas pendant qu'on agit. Deuxièmement, que dans l'ambiance, les enfants sont plus calmes, respectent le travail de l'autre et qu'il y ait moins d'agitation. Troisièmement, que l'environnement soit épuré avec un juste niveau de stimulation. Quatrièmement, le fait qu'on favorise le travail individuel jusqu'à 6 ans, ce ce qui aide ses enfants à mieux se réguler et à se préparer au travail collectif après 6 ans. Cinquièmement, le temps passé dans la nature, qui aide là encore à se réguler. Sixièmement, la liberté de choix, qui lui permet de suivre son rythme. Septièmement, le fait qu'il y ait moins de cas de harcèlement scolaire, tout le travail sur l'éducation à la paix, qui évite à ses enfants de subir un harcèlement scolaire. Neuvièmement, tout le travail de vie sensorielle Montessori, qui va aider l'enfant à raffiner ses perceptions et là encore à s'autoréguler. Et neuvièmement, le respect du consentement de l'enfant, qui fait qu'on ne va pas le toucher s'il ne le souhaite pas. Alors, là, je vous ai parlé de tous ces avantages, mais il n'empêche qu'il y a quelques adaptations qu'un éducateur Montessori va faire assez naturellement s'il est confronté à un enfant hypersensible. Cette hypersensibilité, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais elle peut être liée à un haut potentiel intellectuel. C'est très, très, très souvent le cas. Elle est aussi très présente dans les troubles du spectre autistique. Vous avez beaucoup d'enfants autistes qui ont des grosses difficultés à s'habiller, à trouver des vêtements dans lesquels ils se sentent bien, sans une ceinture élastique qui les serre trop, sans une étiquette qui les gratte, avec un tissu qui ne les démange pas. Enfin, c'est une vraie difficulté. Donc, il y a des enfants hypersensibles qui ne sont ni à haut potentiel intellectuel, ni autistes. Mais c'est pour vous dire que c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent associé au haut potentiel intellectuel ou aux troubles du spectre autistique. Et donc, dans ce cas-là, on peut faire certaines adaptations. Il n'y a aucun souci avec ça. Par exemple, pour tout ce qui est lettres rugueuses, chiffres rugueux, souvent c'est un toucher, une sensation tactile qui est très désagréable pour les enfants hypersensibles parce qu'elles sont faites avec du papier de verre. Ce papier, il est normalement fin, c'est du grain fin, il n'empêche que ça peut être très désagréable. Même nous adultes, souvent si on a un ongle surtout qui frotte sur le papier de verre, on peut avoir une espèce de frisson désagréable. C'est un peu comme si on faisait crisser les ongles sur le tableau, vous voyez. Eh bien là, on peut remplacer ces lettres avec du papier de verre par des lettres en velours, avec du velours autocollant adhésif. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable pour les enfants, et du coup, ça leur évite d'être bloqués sur cet apprentissage-là par le côté sensoriellement pénible. Un autre aspect, toujours sur l'hypersensibilité tactile, c'est que peut-être qu'on va retirer pour cet enfant-là, ou en tout cas lui dire de ne pas travailler avec certains tissus qui seraient trop rêches ou désagréables pour lui dans la boîte à tissus. C'est une activité de vie sensorielle, la boîte à tissus, où on demande aux enfants de mettre en paire, sans les regarder, des morceaux de tissu. Et ensuite, ils se corrigent en enlevant leur masque pour pouvoir voir les tissus qui sont visuellement différents aussi. Donc si les tissus sont trop désagréables, on va simplement dire à l'enfant de ne pas travailler avec eux. Peut-être aussi qu'on peut retirer les boîtes à son qui sont trop fortes, qui font trop de bruit. Souvent, on fait des boîtes à son avec donc, différentes choses dedans. C'est là encore une activité de vie sensorielle, avec de la farine qui fait un bruit tout doux, très agréable, avec différentes choses comme ça peut être des lentilles, ça peut être de la semoule, donc des choses qui vont être plutôt douces encore. Et on peut aller jusqu'à des choses comme des pois chiches ou des perles en bois qui font beaucoup de bruit. Et ça, même si l'enfant ne travaille pas directement avec, si un autre enfant dans l'ambiance prend ces boîtes-là, ça risque d'être très, très désagréable pour l'enfant hypersensible. Donc peut-être qu'on peut retirer les boîtes à son qui sont les plus intenses au niveau du bruit, qui font le bruit le plus fort, et se concentrer uniquement sur les autres. Il y a quand même de quoi faire avec les autres. Et puis, de manière générale, il est important que l'éducateur reste attentif, que ce soit un parent éducateur ou un éducateur, aux signes précurseurs d'une surstimulation ou d'une crise sensorielle ou émotionnelle. Parce qu'encore une fois, l'enfant n'est souvent pas conscient qu'il commence à être agacé par quelque chose. Mais nous, de l'extérieur, je pense qu'on peut davantage l'observer. Par exemple, encore un enfant qui se gratte à un endroit donné, toujours le même, et où on sent qu'il est agacé. Un enfant qui développe un tic avec les yeux, un tic d'une épaule qui bouge, quelque chose comme ça, on fait ça, tiens, peut-être quelque chose qui le gêne, peut-être sur son vêtement, peut-être dans le bruit de l'ambiance autour de lui. Il y a toutes sortes de choses comme ça qu'un enfant va manifester, Ça peut être aussi de se boucher les oreilles, de se refermer sur lui-même. Il peut y avoir tout un tas de choses. Et dans ces cas-là, eh bien, on peut aller inviter l'enfant à se mettre davantage au calme, peut-être à travailler quelques exercices de respiration, toujours pour s'auto-réguler, peut-être à faire un petit exercice de yoga ou de méditation ou de respiration, encore une fois, pour anticiper la crise et la désamorcer. Et ça va faire une énorme différence. Et là encore, c'est beaucoup plus facile à faire dans une ambiance Montessori que dans une classe classique. Pourquoi ? Parce que dans une ambiance Montessori, l'éducateur ou le parent éducateur, il va regarder, observer les enfants. C'est l'une de ses premières missions. Et les enfants travaillent avant tout en autonomie, même si évidemment l'éducateur doit aussi faire des présentations. Dans un environnement classique, l'enseignant ne peut pas passer son temps à observer tous ses élèves. Il ne va pas forcément se rendre compte que tel enfant s'apprête à vivre une crise sensorielle ou émotionnelle. Donc là aussi, ça va être plus facile dans une ambiance Montessori. Et puis, je voudrais insister sur une autre vision de l'hypersensibilité. On voit toujours ça comme une plaie, un inconvénient, un cauchemar, un truc qui nous pourrit la vie, qui nous empêche de vivre comme les autres pleinement, etc. Mais non, l'hypersensibilité, c'est neutre, moralement, ça n'est ni bon ni mauvais. Il y a des inconvénients, j'en ai parlé. Et puis, il y a aussi des qualités liées à l'hypersensibilité que la pédagogie Montessori va, là encore, aider à développer, plutôt que de ne s'attacher qu'aux inconvénients de l'hypersensibilité. Par exemple, en général, un enfant hypersensible peut être plus attentif aux détails. C'est quelque chose qu'on va pouvoir développer encore davantage chez lui, l'attention aux détails. Ce qui va un petit peu avec, c'est le sens de l'observation. Et puis au niveau de l'hypersensibilité émotionnelle, eh bien, on peut travailler sur l'empathie. Ça va être des enfants qui peuvent développer une très grande empathie, ce qui est quelque chose de magnifique et de précieux. Et puis, on peut aussi aider ces enfants à développer leur sens artistique, leur sens esthétique, puisqu'ils ont ces perceptions sensorielles développées, peut-être de percevoir la lumière sur tel tableau, les beautés de la nature, leur propre créativité artistique. Tout ça, ça peut évidemment être quelque chose qu'on peut les aider à développer. Mais là encore, ça passe, je pense, par tout un travail de vie sensorielle, Montessori, qui va les aider à analyser ces perceptions. C'est-à-dire que, ah oui, là je perçois un rouge, mais un rouge qui est plus foncé que tel autre rouge que je vois à côté. Ça, c'est encore une activité de vie sensorielle, le dégradé des couleurs, Montessori. Donc vous voyez que pour ces enfants qui peuvent représenter, suivant là où on met le curseur, jusqu'à 30% de la population, 30% des enfants, eh bien la pédagogie Montessori peut les aider, peut répondre à leurs besoins, à la fois en évitant les crises et les inconvénients liés à l'hypersensibilité, qu'elles soient sensorielles ou émotionnelles, et puis en plus, ça va les aider à développer toutes les qualités, tous les avantages liés à cette hypersensibilité, et ça, je trouve ça merveilleux. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que je vous aurai intéressé, peut-être sensibilisé à ce sujet de l'hypersensibilité. Oui, le jeu de mots est voulu. Et que je vous aurai convaincu de l'intérêt de la pédagogie Montessori spécifiquement pour ces enfants hypersensibles. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau podcast. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure. N'oubliez pas que vous n'avez que jusqu'au dimanche 5 mai pour vous inscrire à notre prochain atelier de parents en discipline positive sur Zoom. Et petit rappel, l'inscription du deuxième parent est offerte. Donc si vous voulez prendre du temps en couple, à la fois pour vous et pour votre famille, eh bien c'est l'occasion ou jamais. Vous pourrez suivre tous les ateliers de chez vous sans même avoir à prendre une babysitter. Mais bien entendu, si vous êtes parent solo, vous êtes tout autant le bienvenu. J'ai donc hâte de vous retrouver les jeudis soirs de 20h30 à 22h30 entre le 16 mai et le 27 juin pour 7 séances de 2 heures en discipline positive. Toutes les informations sont disponibles sur le lien d'inscription que vous retrouverez dans les notes de votre épisode. À très bientôt!